Alors ici, on est à l'unité de méthanisation de Gouy-sous-Bellonne.
On y est enfin ?
On y est enfin, oui, ça a pris le temps et pour l'instant, tout se passe bien. Donc,
Le site est en exploitation ?
Le site est en exploitation. Alors, on a démarré grosso modo début juillet, fin juin, début juillet. Et on a commencé à injecter dans le réseau à partir du 28 juillet. Alors, quand on dit dans le réseau, c'est-à-dire dans le réseau GRDF, on a injecté donc le gaz vert.
Quand on a pris rendez-vous, vous m'avez dit, s'il pleut, c'est mieux. Parce que, au moins, je ne peux pas faire autre chose. Le reste du temps, vous faites quoi ?
Bah, le reste du temps, forcément, je m'occupe des cultures. Et cette époque-ci, c'est une époque assez chargée. On a notamment les arrachages de pommes de terre qui nous prennent un peu de temps, enfin qui sont dans le calendrier de travail de l'année, une période assez intense.
C'est donc sous la pluie de ce lundi 5 octobre 2020 que je vous invite à suivre Aymeric Basse dans son unité de méthanisation agricole située entre Corbehem et Gouy-sous-Bellonne. Un site qui n'a rien à cacher et qu'Aymeric Basse compte bien pouvoir, dès que possible, faire visiter au grand public.
On a prévu de faire une porte ouverte pour l'instant que l'on imagine essentiellement avec les riverains, histoire de leur montrer et de les informer, de continuer dans cette notion de dialogue et de découverte du site. Oui, sinon les contraintes, forcément, on est sur un site privé, mais on est aussi sur un site qui exige une certaine attention. Il y a des règles de sécurité à tenir. Voilà, je peux vous donner le gilet orange et fluo, etc., etc. Enfin, les règles de sécurité classiques.
Ça se passe comment maintenant avec les riverains? On va en parler tout de suite parce que c'est vrai que ça a été compliqué. Il y a un moment, le dialogue, de l'inquiétude, crainte des nuisances. Vous m'aviez dit, moi j'ai fait peut-être des erreurs également de communication.
Des erreurs de communication, oui, probablement. Après, j'ai dû dire à ce moment-là, en tout cas je l'ai répété à plusieurs reprises, la preuve par l'exemple. Moi j'ai confiance dans mon projet. Allons au bout, c'est la meilleure façon pour moi de prouver aux autres que ce que je dis aujourd'hui est vrai. C'est difficile à imaginer quand il y a j'essaye de peser mes mots, mais quand il y a une sorte de propagande, une sorte de discours assez vindicatif, assez fort pour contrecarrer, on se sent un peu seul. Et après, il n'y a plus que la vérité et l'exploitation qui peuvent prouver. J'avais une expérience qui était particulière, c'était celle d'une rencontre avec Pierre Paulet, qui avait lui-même eu une méthanisation qui avait été très compliquée en termes d'acceptabilité et qui recevait aujourd'hui les gens à boire le café chez lui et que tout ça était passé. J'ai vraiment eu cette ligne de fond, parce que j'avais confiance dans mon projet, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'avais dit à l'époque lorsque vous êtes venu voir chez mon associé, c'est grosso modo, vous allez le voir, une copie conforme de ce qui est fait chez mon associé, que ça fonctionne, que les nuisances sont excessivement faibles, relatives certes, mais globalement faibles, en tout cas par rapport à l'enjeu du projet, parce qu'on est quand même sur un projet écologique. Donc aujourd'hui, au niveau du dialogue, je n'ai cessé de continuer. On a fait un site internet qu'on a globalement arrêté parce que, grosso modo, sur toute la période, il n'y a eu que deux questions qui ont été posées, alors que je pense qu'il y avait beaucoup de questions vis-à-vis des riverains. Donc on s'est dit que ce n'était pas forcément la meilleure façon de communiquer. On est passé assez récemment, il y a 3 mois, sur un compte Facebook. On a vu que chez certains habitants, c'était très utile. Donc on a repris un peu cette forme-là pour être en communication proactive et puis au fur et à mesure de l'évolution du site, aussi être capable d'informer lorsque l'on n'est pas bon, enfin rester dans cette notion de dialogue, de transparence, voilà, s'il y a un souci majeur, une nuisance, être capable de dire oui c'est nous ou être capable de dire non ce n'est pas nous. L'objectif c'est de continuer à informer, que les gens ne se posent pas trop de questions, si c'est moi autant qu'ils le sachent, si c'est pas moi autant qu'ils le sachent. Je reviens sur cette idée de dialogue, l'idée du coup c'est de faire une journée où on accueillera. On va voir parce qu'avec la Covid, c'est quand même quelque chose de compliqué. Normalement, on devrait déjà être dans cette idée de recevoir. Bon, là, ça va être reporté. On verra, est-ce qu'il faut attendre les beaux jours ou pas. Faire des petits groupes pour être capable de présenter tout ça comme je vais vous le présenter aujourd'hui.
Quand on arrive, on est accueilli par un gros matelas. S'il y a des enfants, ça va donner envie d'aller sauter dessus. C'est pas un matelas gonflé derrière ça.
Non, c'est pas un matelas gonflé, c'est la réserve incendie, oui, bien sûr. Qui est obligatoire, comme sur tout site aujourd'hui, pour délivrer une quantité suffisante d'eau pour les pompiers en cas de problème.
On va faire le parcours jusqu'au gaz. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive? Il y a d'abord une balance, ici.
C'est une grosse balance, parce que là, c'est une balance pour camion, donc camion, tracteur, remorque, etc. Donc l'ensemble des intrants qui arrivent sur le site sont pesés, qu'ils soient liquides ou solides. Ils sont pesés, le chauffeur passe par l'accueil, récupère un badge, et avec ce badge, il va venir sur le pont. On va enregistrer du coup la provenance, le poids, le type de produit, et du coup, on a une traçabilité directe du suivi des intrants qui rentrent sur l'unité.
Quels sont les différents produits justement nécessaires à faire de la pour faire de la méthanisation agricole?
Des issues de céréales, là de l'ensilage de seigle, du fumier de volaille, je regarde en même temps la dalle de stockage pour ne rien oublier, du fumier de bovin, de mes vaches, mais j'ai aussi des partenariats avec des éleveurs voisins, de l'ensilage de maïs qui a été semé après les petits pois de conserve au mois de juin, sur lequel on aurait pu réussir un peu mieux, mais c'est déjà pas mal, on est globalement satisfait. Et de l'autre côté, sur la dalle que je ne vois pas, des déchets de pommes de terre et des pulpes de betteraves, donc le résidu après l'extraction du sucre.
Est-ce qu'il y a des terres agricoles qui sont vouées justement à produire pour pouvoir alimenter les sites de méthanisation?
Alors directement non, indirectement oui. Il n'y a aucune surface chez moi qui est implantée uniquement pour la méthanisation. C'est d'abord pour une culture alimentaire ou à la rigueur une culture fibre comme le lin, mais c'est d'abord pour une culture alimentaire, notre vocation première d'agriculteur. Et ensuite, durant l'intersaison, durant l'interculture, on a obligation de toute façon de mettre un couvert sur les sols pendant l'hiver pour limiter l'érosion. Dans cette interculture, on peut profiter de mettre du seigle ou de profiter de mettre une culture qui va être plus longue dans la saison pour rester sur le sol.
Est-ce que ces plantes intersaison, elles fatiguent la terre en quelque sorte? Est-ce qu'elles la puisent davantage?
C'est une peur, je considère infondée d'un point de vue agronomique, parce qu'en fait, un sol, il faut qu'il vive. Et pour qu'il vive, il faut qu'il y ait une captation de biomasse, enfin de photosynthèse. Pour créer de la biomasse, il faut qu'il y ait des racines, il faut qu'il y ait des micro-organismes, un ensemble de mycorhizes, etc. Enfin, tout le système complexe du sol est un système hyper intéressant qui vit par l'activité. Dès le moment où on laisse effectivement des sols nus, des sols qui seraient improductifs, c'est là où on va provoquer la mort du sol. Ce qui provoque la vie du sol, c'est d'entretenir cette vie. Comme en méthanisation, un agriculteur, c'est un éleveur de microbes. On s'occupe des microbes qui sont dans le sol, de tout ce complexe microbien qui sont dans le sol, et il faut le faire vivre. Et pour le faire vivre, il faut qu'il ait à manger. Pour qu'il y ait cette vie microbienne, il faut qu'il y ait une activité végétale, il faut qu'il y ait des vers de terre qui fassent des trous dans le sol, il faut qu'il y ait des racines qui fassent aussi des trous dans le sol pour permettre à l'eau de couler, pour permettre les échanges avec l'air extérieur, etc. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, le fait de multiplier les cultures ou d'avoir un sol couvert quasiment toute l'année ou toute l'année, c'est forcément bénéfique pour le sol parce qu'on va entretenir cette vie microbienne. Et c'est pas parce qu'on produit de la biomasse qu'on épuise un sol, au contraire.
Visite de l'unité de méthanisation agricole entre Corbehème et Gouisseux-Hélonne avec Aymeric Bass.
La puce à l'oreille. Reportage.
On entend un peu de bruit là, ça rappelle des bruits d'usine. On est sur une production industrielle.
Alors nous, c'est une méthanisation agricole. J'ai souvent dit qu'il y avait une vraie différence entre les méthanisations agricoles et les méthanisations industrielles, parce que nous, notre objectif, c'est pas de se faire payer à accepter des déchets. Nous, le but, c'est de valoriser des produits pour en faire du gaz vert. Les produits issus de l'exploitation ou issus des déchets qui sont assez connus. Donc les temps de séjour ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est pour la différence entre méthanisation agricole et méthanisation industrielle. Je vous rappelle, méthanisation industrielle, en général, on est grosso modo sur 60 jours de durée dans le digesteur. On va plutôt, nous, être aux alentours de 115-120 jours.
Alors, les digesteurs, c'est justement cette partie-là, ces grands dômes, on les voit de loin maintenant.
Alors on les voit de loin, il y a deux raisons. C'est que, un, effectivement, ils sont volumineux. La deuxième raison qui fait qu'ils sont encore peut-être un peu plus visibles ici qu'ailleurs, c'est qu'on ne les a pas enterrés ou très peu enterrés. C'est une des modifications qui est intervenue suite aux différents recours qui ont été faits. On a souhaité se garantir, enfin plus que se garantir en termes de sécurité. Et donc aujourd'hui, on a sur le site étanchéifié tout le site avec un traitement spécifique. Donc toute l'eau, tous les jus, tout est conservé sur le site. Donc ça, c'est nous ce que l'on a fait en plus qui n'était pas prévu à la base. Et la deuxième chose, c'est que du coup, on conserve cette barrière naturelle qui est en dessous. Grosso modo, ici à 5 mètres, on a une épaisse couche d'argile qui protège la nappe phréatique qui est en dessous. Donc cette couche d'argile est totalement imperméable ou quasiment imperméable. Et donc on a deux barrières de protection. La barrière de protection que nous sommes fixés, et suite à une étude hydrogéologique que nous avons nous-mêmes mandatée, on a décidé de faire donc cette étanchéification de surface et de conserver la barrière naturelle en dessous.
Ce qui explique que les dômes donc sont apparents.
Ce qui explique que les dômes sont apparents, ils sont du coup surélevés par rapport à la normale, par rapport à ce que l'on peut voir sur d'autres méthanisations, de l'ordre de 3-4 mètres. Alors on a voulu en revanche, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, des bâches grises, alors ça se confond parfaitement avec le décor d'aujourd'hui, mais justement pour limiter cet impact visuel, parce que finalement ce que l'on voit le plus dans les méthanisations, c'est le point haut, et c'est souvent les bâches, donc qui sont souvent soit grises, soit vertes, on a opté pour le gris.
C'est pas encore le moment des plantations, mais ça, c'est à venir dans le projet. Vous le voulez vert jusqu'au bout, ce projet.
Oui, tout à fait. Oui, on le veut vert jusqu'au bout. Là, si on regarde bien, là, c'est parce qu'on est sur la finition, mais déjà sur le tour, on a commencé donc à planter les arbustes et puis même la pelouse sur le tour du talus. Ici, l'intérieur, on fignole avant d'ensemencer.
Aujourd'hui, le rendement, il est celui que vous espériez?
Bon, oui, le rendement, il est exactement presque mieux, enfin même assurément mieux, mais bon, voilà, on attend avec le temps. 3 mois, c'est pas grand-chose, mais pour l'instant, oui, ça répond très bien. On a une très bonne activité microbienne, hein, parce que je sais pas où je rappellerai le principe plus tard, mais voilà, ça correspond bien aux intrants qu'on lui donne à manger. On a des produits de qualité, des bactéries qui sont de qualité, voilà, donc on est pile poil. Dans ce que l'on veut faire, pour l'instant, on est presque, dans tous les cas, on arrive assez facilement à faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait cette notion de 29,9 tonnes. Bon, bah voilà, pour vous dire, aujourd'hui, on est à 14 tonnes, grosso modo, par jour. Donc, on est bien loin des 29,9 tonnes qui nous sont permises. Mais bon, voilà, on ne peut pas non plus se baser que sur 3 mois. On verra sur. En tout cas, on a cette souplesse. On sait qu'on a on en a sous le tapis, comme on dit, pour avancer si jamais il y a besoin.
Moi, j'ai suivi à distance, hein, par les moyens de communication que vous avez activés, la mise en œuvre, l'avancée du chantier. Vous avez posté la photo de la torchère en disant « on espère qu'elle ne brûlera pas ». Voilà, c'est ça.
Oui, c'est le cas, parce que bon, c'était un gros sujet, cette torchère sur la commune. Bon, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu fonctionner. En fait, avant d'injecter dans le réseau, forcément, il faut qu'on l'on brûle le gaz, le temps d'avoir les conditions et les qualités nécessaires pour pouvoir l'injecter dans le réseau, parce que le consommateur final qui nous écoute, il a besoin d'une norme standard et d'une qualité. GRDF nous oblige à cette qualité. Tant qu'on n'a pas cette qualité, donc, c'est-à-dire en grosso modo du 1er juillet au 28 juillet, tant qu'on est en phase d'amorçage, on est obligé de brûler ce gaz. Et en fait, la flamme est quasiment cachée en totalité par ce tube, donc on la voit quasiment pas, sauf si vous passez le soir et que vous regardez précisément à cet endroit-là. Effectivement, il y avait une flamme qui était visible, et plutôt que déranger les pompiers inutilement, je me suis dit, je vais quand même prévenir, voilà. Et puis d'ailleurs, j'avais appelé les pompiers, d'ailleurs, bien entendu, en amont, pour leur dire, surtout si vous avez des appels sur l'unité de méthanisation jusqu'au 28 juillet, ne vous inquiétez pas, c'est très probablement lié à la torchère. Voilà.
Quand elle brûle, la torchère, c'est quoi? C'est qu'il se passe un problème, qu'on ne peut plus injecter dans le circuit, ou c'est qu'on est en surcapacité?
Les deux. Mais la raison la plus probable, c'est qu'effectivement, on n'a pas les conditions spécifiques, hein, donc c'est technique, hein, mais il y a l'indice de Webb, etc., le PCS, il y a différentes. La température, enfin, il y a le taux de THT, l'odorant que l'on met dans le gaz, etc. Donc il y a un ensemble de conditions qu'il faut respecter pour pouvoir injecter dans le réseau. Si une seule est défaillante, la vanne côté GRDF se coupe. Vous imaginez bien, et je pense que maintenant vous l'avez compris, qu'une unité de méthanisation, on est quand même avec une inertie assez forte. Hein, les bactéries, c'est pas une armée, hein, donc on ne leur demande pas de s'arrêter à l'instant et de redémarrer 10 minutes après. Donc tout ça continue, ça vit. Forcément, comme ça vit, ça continue de produire du gaz. Et à un moment donc de pression, alors on est sur des très faibles pressions, hein, on parle à partir de 3 millibars, donc vous voyez, c'est dès le moment où la bâche va être gonflée à 3 millibars, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est quand même 3 millibars, dès le moment où elle va être gonflée à 3 millibars, on va avoir la torchère qui va se mettre en route pour assurer le coup et commencer à brûler ce gaz. Forcément, c'est dommage de brûler, que l'on ait une flamme, c'est frustrant, mais c'est d'abord frustrant pour nous, parce que forcément, c'est une perte sèche. En revanche, d'un point de vue écologique, il faut bien imaginer que c'est tout le principe du gaz vert, c'est-à-dire que c'est la même chose que quand ce gaz va brûler dans votre gazinière. Cette quantité de CO2 qui va se dégager avec la combustion va être globalement la même que si on avait laissé cette matière organique se dégrader à l'air libre ou dans le sol naturellement.
Ça ne pollue pas plus, mais ça n'a pas d'utilité.
Ça n'a pas d'utilité, donc c'est vain.
Voilà, bah je vous laisse peut-être nous guider dans vos installations.
Visite de l'unité de méthanisation agricole entre Corbehem et Goussoubellone avec Émeric Bass.
Radio
Scarpe Sensée.
Radio Scarpe Sensée. Reportage.
Donc bah là, je vous ai dit, il y a une partie solide, il y a une partie liquide. Dans cette partie liquide, donc on a ces fosses qui peuvent recueillir différents produits de l'agroalimentaire. Hein. Des sous-produits de l'agroalimentaire. Ici, on a de l'amidon. L'amidon de pommes de terre. Voilà. Qui va être valorisé au même titre que...
C'est moi qui suis enrhumé ou ça ne sent pas ? Un petit odeur de levure, peut-être, là.
Oui, mais juste parce qu'on est passé au-dessus du... Non, franchement, enfin, je...
Ça peut, éventuellement, sentir de temps en temps, quand on manipule, je suppose, tout ça, là, on ne peut pas faire sans.
Évidemment, et puis je vous dirais surtout que ça sente ici, là où vous êtes, c'est un peu logique, on est sur site, on est à
5 mètres. Oui.
Ouais, à 5 mètres de matières qui peuvent potentiellement être odorantes, et surtout si on les remue. Donc voilà, évidemment, sur site, la question c'est en dehors du site, et comme j'ai coutume de dire, et pour l'instant ça s'est largement vérifié, au-dessus de 100 mètres, il n'y a pas de sujet, quoi. Ou peut-être exceptionnellement quelques heures dans l'année, mais au-dessus de 100 mètres, en théorie, il n'y a pas de sujet. Voilà. Et là, je vous rappelle que les maisons sont grosso modo à 450, voire 500 mètres du site. Donc pour l'instant, je pense que c'est eux qu'il faut aller interviewer, mais ce sera assez compliqué de dire qu'on a été source d'odeur depuis le début.
C'est quoi ce compteur là-haut là, qui indique 34 040?
34 040, c'est 34 tonnes, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on donnait 14 tonnes par jour, grosso modo, on va dire 15 tonnes. Et là, du coup, comme notre incorporateur est prévu pour pouvoir mettre jusqu'à 40 tonnes, on fait des rations de 2 jours.
Donc c'est ce qu'il y a dedans.
Là, c'est ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la partie solide. Donc le principe, c'est ce digesteur dont on a parlé tout à l'heure, il faut le nourrir tous les jours. On a la partie liquide, donc ça c'est des pompes qui vont tous les quarts d'heure donner un petit peu de produits aux bactéries, d'aliments aux bactéries. Et on a cette partie donc, qui ressemble à une grosse caisse de camion que l'on va remplir tous les jours des différents produits dont j'ai parlé qui étaient sur la dalle tout à l'heure. Donc tout ça c'est une ration, hein. On est assez précis, tous les jours on va donner autant de tels produits, etc. On va les mettre dedans et... La même chose, un peu comme un épandeur pour ceux qui ont quelques notions, mais où on va dire là c'est un bélier, mais on pourrait imaginer un fond mouvant. Tout ça va pouvoir rentrer dans le digesteur à l'aide de moulinets et on va rentrer une quantité de ce solide tous les quarts d'heure aussi pour donner à manger aux bactéries qui sont dans le digesteur. Je rappelle que dans le digesteur, c'est en phase liquide, tout est en infiniment mélangé, donc on est toujours quelque chose de fluide et de liquide. Donc on réutilise un peu cette quantité de matière liquide pour la mélanger à la partie solide, faire une pâte assez liquide et l'intégrer pour que les bactéries puissent se rassasier.
Et produire le gaz.
Donc normalement on l'alimente tous les jours. Là ici, comme on est assez souple sur la matière et que le dimensionnement du projet est satisfaisant, on arrive à s'épargner de le charger le week-end, enfin le dimanche. Et en ce moment, comme c'est les pommes de terre et qu'on est un peu charrette, on le charge tous les deux jours, ça nous évite d'y passer trop de temps.
Ça peut tomber malade une bactérie ?
Ah oui, bien sûr, oui. Alors, je rappelle que les bactéries, ce sont les mêmes que celles qui sont dans la panse de la vache. Donc, on est sur du phénomène vivant. En fait, une bactérie, elle ne tombe pas malade. Soit elle est vivante, soit elle est... Enfin, on peut admettre qu'elle tombe malade, mais en tout cas, soit elle est vivante, soit elle est morte. Elle est présente ou elle n'est pas présente. Donc, on va créer les conditions idéales pour son développement, pour sa multiplication. Et ces conditions idéales, c'est essentiellement le pH et lui donner à manger pour qu'elle se reproduise et qu'elle prenne toute la place, oui. On reproduit exactement le système du ruminant, hein, c'est-à-dire le ruminant va faire exactement la même chose, il a les mêmes bactéries qui vont, enfin on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais qui vont lui produire des acides gras volatiles, dont le biométhane.
Il y a trois DOM, Ils ont tous la même vocation, ces trois dômes ?
Non, du tout. Enfin, du tout, globalement, on reste sur un cycle. Donc on a le premier dont on vient de parler, qui n'est pas le plus grand, hein, mais le premier, qui va produire 80% du biogaz. Alors ce biogaz, il est... on va se mettre à l'abri du vent, sinon ça va être compliqué. En fait, les trois cuves... On a parlé des bâches tout à l'heure de couleur grise. En fait, la bâche de couleur grise, c'est une bâche de protection. Elle est gonflée avec de l'air. C'est pour ça qu'elle reste toujours à peu près identique. En revanche, à l'intérieur, on a à nouveau une membrane qui, elle, va fluctuer en fonction de la production de gaz, un peu comme un poumon. Plus il va y avoir de production de gaz, plus elle va gonfler. À partir de 3 millibars, c'est le moment où on va déclencher la torchère en disant « Attention, il ne faut pas qu'elle pousse de trop, sinon elle va s'enlever. » Donc le principe, c'est 80% du biogaz qui est produit tout de suite. Là, on est entre 38 et 42 degrés. Les bactéries fonctionnent, elles produisent ce CH4. 80% est produit là. Elles produisent du biogaz, pardon. Pas que du CH4, elles produisent du biogaz. Dès le moment où la matière va être digérée, on a dit qu'on était en infiniment mélangé, c'est la matière la plus légère qui va se retrouver sur le haut du digesteur. Et du coup, assez naturellement, quand on va introduire une ration tous les quarts d'heure de produits dans ce digesteur, vous imaginez bien qu'il faut que ça sorte par quelque part. Donc c'est la partie la plus légère, qui est la plus digérée, qui va elle-même naturellement passer dans le tuyau que vous voyez là-bas en face. Enfin, pour les auditeurs, c'est un peu compliqué, mais donc...
Il est en haut.
Qu'on appelle la surverse. Donc à chaque fois qu'on va injecter du produit, de l'aliment vers le bas, on va avoir une partie du digesta, ce qu'on appelle le digesta, hein, ce fluide-là. On a une partie du digesta qui va tomber dans la deuxième cuve. Et là, on va grosso modo faire les 20% de biogaz qui reste. Là, je vous ai bien parlé de biogaz et pas de biométhane, pardon. Parce qu'ici, ce que l'on produit dans cette première étape, c'est du biogaz. Pour accéder au biométhane qu'on va injecter dans le réseau, il faut qu'on le nettoie et c'est là où on a un process qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup plus industriel. On est sur la partie très technique. Finalement, c'est assez simple. Hein. On est vraiment sur quelque chose de...
Il manque un dôme, là, dans ce que vous m'avez expliqué. Le troisième, il sert à quoi ?
Alors, le troisième, c'est le stockage. Donc, pareil, même principe. Dès le moment où c'est suffisamment digéré, ça va arriver sur le dessus de la cuve et ça va pouvoir tomber dans la partie stockage. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-elle bâchée ? En fait, on pourrait très bien ne pas mettre de bâche sur cette cuve-là parce que le digesta, grosso modo, après 120 jours de digestion, il est devenu inodore. Donc on pourrait très bien ne pas la bâcher. Nous, on a décidé de la bâcher, ça nous fait une sécurité en termes de réserve de gaz. Parce que si jamais, voilà, on a dit tout à l'heure, si jamais GRDF coupe le gaz, plus on a de volume, plus on a de poumons à remplir, plus on a d'heures tranquilles, le temps de réparer, de dépanner le site.
En fin de process, il devient quoi ce digesta, une fois qu'il a été épuisé ?
Alors ce digesta, une fois qu'il a été épuisé, il conserve toutes les qualités dont on a besoin pour faire grandir une plante, d'accord ? C'est-à-dire qu'il conserve la partie azote, la partie phosphate, la partie potasse, la partie soufre, la partie calcium, il conserve toutes ces qualités-là. La seule chose que l'on enlève du produit, c'est bien le CH4, d'accord ? Donc on va l'utiliser comme engrais organique sur l'ensemble des parcelles que l'on a prélevées. Donc en fait, on rend à la parcelle ce qu'on lui a prélevé d'un point de vue minéral, pour qu'elle puisse le valoriser et à nouveau reproduire de la biomasse avec l'aide du soleil, faire avec la photosynthèse, refaire de la biomasse et refaire donc du carbone à la fois en partie aérienne et en partie souterraine.
Là, on vient d'entendre, je ne sais pas si on l'entend dans le micro, les machines se sont mises en route, il n'y a personne qui est venu appuyer sur le bouton. Hein.
Ah oui, forcément, tout est automatisé. Tous les quarts d'heure, sinon ça exigerait beaucoup d'intendance. En fait, On peut redire juste précisément, mais cette quantité de matière qui rentre, on va la passer sur un genre de couteau pour pouvoir diminuer au maximum le diamètre de la matière pour qu'elle puisse être attaquée par les bactéries assez rapidement. Forcément, vous imaginez bien qu'un bout de bois assez long, les bactéries vont pouvoir faire que le tour. Et en plus, c'est de la lignine, c'est difficile à attaquer. Plus le brin va être court et plus il va être défibré, plus les bactéries vont pouvoir attaquer rapidement.
Le procédé... Il consomme beaucoup moins d'énergie qu'il n'en produit, parce qu'il y a des machines... Voilà, vous avez calculé ce ratio ?
Bien entendu, on est beaucoup plus producteur d'énergie que consommateur, oui. Ici, donc, on est sur un site en injection gaz. Les méthanisations, il y en a deux sortes. Il y a celles qui font de la cogénération et donc qui vont générer de l'électricité plus de la chaleur.
Pour faire tourner des moteurs, c'est bien ça.
Voilà, on va utiliser le biogaz qui va alimenter un moteur. Ce moteur va faire tourner une turbine et cette turbine va générer de l'électricité, l'électricité verte dans le réseau. Et on a les autres méthanisations comme la nôtre qui sont en injection de gaz. La grosse différence entre les deux, c'est que cette valorisation de la chaleur dans le cas de l'électricité, parce que ce moteur qui va tourner va générer beaucoup de chaleur qui constitue de l'énergie, et cette chaleur est difficile à bien valoriser. Aujourd'hui, les méthanisations qui tournent la valorisent, mais je veux dire, c'est pas forcément évident. Il faut souvent recréer un atelier à côté pour dire de la valoriser, avec de la production de spiruline par exemple. Certains alimentent des fraises, des serres pour faire des fraises, enfin voilà, y a, ou du réseau de chauffage. Pour les villages, etc. Mais dans ces cas-là, vous imaginez que ça rapproche encore un peu plus l'unité de méthanisation du village.
La chaleur ici, elle devient quoi ? Elle n'est pas du tout...
Pas de chaleur. Alors nous, il n'y a pas de chaleur. Si, bien sûr, il y a de la chaleur parce que naturellement, la production par les bactéries méthanogènes est exothermique, donc elle génère elle-même sa chaleur, ce qui nous permet, un, de conserver la température des cuves, grosso modo entre 38 et 42 degrés, et forcément pendant l'hiver on n'arrive plus, on est obligé de compenser, c'est-à-dire qu'on est obligé de nous-mêmes prendre du biogaz pour les conserver à 38-42 degrés. Mais globalement, depuis l'installation 28 juin, on n'a pas du tout fait tourner la chaudière pour se faire.
L'air qui se trouve entre cette bâche et la bâche en dessous, en dessous de laquelle il y aura cette fois-ci le biogaz, cet air est donc lui aussi chauffé. Ça veut dire que cet hiver, il n'y aura jamais de neige sur le dôme ?
Ah, c'est exact. J'ai jamais pensé comme ça, mais oui, effectivement. Oui, non, bien sûr. La couche va être... D'ailleurs, elle est isolée, hein, mais bon, pas au point d'avoir de la neige. À mon avis, l'isolation ne sera pas suffisante pour qu'on puisse conserver la neige dessus. De toute façon, la forme est prévue pour que la neige ne stagne pas, parce que sinon, ça risquerait d'endommager à long terme la bâche.
La méthanisation agricole, ça dépend également du temps, où il y a des facteurs qui vont être différents. S'il pleut beaucoup, est-ce qui est stocké, par exemple, ici, ce sera d'aussi bonne qualité pour le méthaniseur ou le gel et...
Effectivement, s'il pleut beaucoup sur le site, je vous ai dit tout à l'heure que nous, on était parfaitement étanche sur le site. Donc, plus il tombe d'eau, plus il faut retraiter cette eau. Soit c'est de l'eau propre, soit c'est de l'eau sale, mais l'eau, elle est très vite souillée. Donc toute cette eau-là, aujourd'hui, nous, on l'intègre dans le digesteur. Toute l'eau souillée rentre dedans. Forcément, s'il y a plus de volume à traiter, c'est plutôt problématique parce qu'il y a peu d'énergie dedans. C'est froid, donc ça va avoir tendance à refroidir le digesteur. Enfin voilà, il y a plusieurs inconvénients. Maintenant, on va être cohérent globalement sur une année. Les fluctuations, la nature se rattrape toujours à un moment ou à un autre. Donc ce qu'on n'a pas en été, en général, on l'a en automne. C'est d'ailleurs ce qui nous fait un peu peur aujourd'hui. Donc ça, c'est pour répondre à l'eau. La chaleur, bah forcément, plus il y a de chaleur, moins on aura besoin de consommer du biogaz pour maintenir la température des cuves. La neige, forcément, c'est plus problématique pour nous parce que si jamais il y a une panne ou quoi que ce soit, des boulons à desserrer quand il gèle, c'est vite plus difficile qu'en temps normal. Non, sinon, je vois pas beaucoup de contre-indications. En tout cas, par rapport. Alors, après, si, bien sûr, la production des cultures intermédiaires dont on a parlé tout à l'heure, et c'est le cas cette année, forcément, comme on a eu un été très sec, on a deux types de cultures intermédiaires, celles que l'on considère d'été, comme le maïs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui suit un poids. Donc celle-là va être très sensible, on est sur des durées de végétation très courtes, donc elle va être très sensible aux conditions climatiques extérieures. Le seigle, en revanche, qu'on est en train de semer, enfin qu'on a semé la semaine dernière et qu'on va ressemer dès que les conditions le permettront, que l'on va récolter, lui, en revanche, au 15 avril, il a tout l'hiver pour se retaper, pour faire de la biomasse. C'est beaucoup moins inquiétant. Plus le cycle est court, plus on a une exigence de météo et de conditions qui est importante, plus le cycle est long, plus grosso modo on a moyen de se rattraper sur la durée.
On va bouger un petit peu. Je vous suis.
Radio Scarpe Sensée.
Radio Scarpe Sensée.
Visite de l'unité de méthanisation agricole entre Corbehem et Gouy-sous-Bellone.
Reportage.
Là, vous voyez les mixeurs hein, qui brassent, alors c'est pas en continu, hein, mais c'est grosso modo c'est 9 minutes toutes les 16 minutes. On a un brassage. Là derrière vous avez les pulpes, vous avez aussi les pommes de terre dont je parlais tout à l'heure. Au niveau des pulpes, ce qui est intéressant, c'est que l'on met de la pelure de pommes de terre ce qui nous évite de mettre des bâches qui sont forcément problématiques dans le circuit parce qu'il reste toujours des petits bouts qui se perdent, etc. Ça reste du plastique, ça reste tout ce que l'on veut. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on met une bonne couche de pelure de pomme de terre qui est elle complètement inodore et qui va constituer une paroi étanche pour permettre la conservation des matières en dessous. Donc à chaque fois qu'on peut l'utiliser, on l'utilise.
Vous vouliez de la pluie, vous avez de la pluie. Hein.
Normalement, encore un peu demain et le bon temps, c'est celui qui ne dure pas. Là, de tout ce qu'on a vu là tout à l'heure, donc, vous voyez, il y a des gros tubes inox qui sortent de ces cuves et qui rentrent dans le sol. Ça, c'est la première étape qui va permettre au gaz, on va suivre, hein, on va faire le tour de la cuve. Mais grosso modo, avant d'arriver de l'autre côté, il est à peu près 120 mètres. Et sur ces 120 mètres, il va se refroidir avec la température du sol naturelle. Ouais. Et bah, ça va faire comme sur la vitre de votre salle de bain. Hein. Ça va se refroidir et ça va condenser. Et ça va nous permettre de séparer l'eau. On a différents ennemis.
L'eau dans le gaz, c'est jamais bon.
Voilà, vous m'avez compris. Donc ça va nous permettre de faire condenser ça et de séparer une grosse partie de l'eau dans cette première étape. Derrière, on est passé vite fait à côté, mais vous voyez, c'était la torchère dont on a parlé. Donc là, on a fait la partie, j'allais dire, assez simple en termes de fonctionnement.
Ce qu'il y a de plus gros, c'est ce qu'il y a de plus simple.
Voilà, ce qu'il y a de plus gros sur le site, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. La partie la plus complexe et la plus industrielle, c'est cette petite partie, donc qui visuellement n'est pas très impressionnante. Mais quand on rentre dedans, ça l'est beaucoup plus.
Alors, c'est écrit local épuration membranaire, local technique, local odorisation biométhane et local chaufferie. Voilà. Alors, tout ça, ça tient dans un gros conteneur, quoi. C'est.
On n'a pas de chance pour le temps. Hein. Bon, déjà, la première étape, donc en fait, c'est la supervision. Et donc, sur cet écran, on a ici l'ensemble du système d'épuration, système français, d'accord, qui s'appelle Prodeval, donc des ingénieurs en solution gaz, avec un système qui est chez nous, ce qu'on appelle membranaire. Donc, je vous ai dit qu'il y avait différentes étapes, donc c'est un peu technique, je peux rentrer dedans si ça vous intéresse, mais en gros, on va toujours jouer sur la pression et sur la température, sur toute une première partie, pour séparer les phases du gaz. Et ensuite, on va avoir une deuxième partie qui est ici la plus importante, c'est cette technologie membranaire. C'est-à-dire qu'on va faire passer l'ensemble du biogaz à une pression déterminée, comme dans des filtres à café, dans des tubes. Et les particules les plus grosses vont rester, dont le CH4, vont rester dans cette canalisation. Les particules les plus fines vont sortir de cette canalisation en fonction de la pression que l'on met dedans. Le CH4, c'est ce que l'on va vendre, donc à partir de ce principe-là. Dès le moment où on a fini de l'épurer, dès le moment où on l'a suffisamment nettoyé. Ici, on est en gaz B, donc on n'est pas sur un... On peut y revenir juste après, mais donc ce gaz B, ce gaz que l'on va vendre, il part directement dans la canalisation pour aller au poste GRDF, qui est à l'entrée du site, qui appartient à GRDF et qui est à l'entrée du site. Et c'est eux qui vont le mettre en exploitation dans le réseau.
Et entre-temps, il est donc odorisé parce qu'il ne sent rien. Et
entre-temps, j'ai oublié effectivement cette étape-là. On l'odorise avec une molécule qui s'appelle le THT pour qu'il ait cette odeur que tout le monde connaît, qui est l'odeur du gaz. D'ailleurs, si on passe à côté, vous allez avoir l'impression qu'il y a une fuite de gaz alors que ça n'est que du THT parce que l'inconscient fait que c'est une réponse hyper rapide. Mentalement, on a très vite une association d'idées avec le gaz alors que c'est juste l'odorant. Vraiment, là, pour le coup, on est vraiment sur un process très industriel.
C'est de la physique.
C'est la physique-chimie. Hein, physique-chimie. On a des maintenances en 24-24, c'est-à-dire que dès qu'il y a un souci, etc., on est en hotline systématique, etc., avec des gens qui sont performants, qui nous assistent à distance. Et dès qu'on n'arrive plus à suivre, parce que nos compétences sont limitées, ils envoient très rapidement un technicien et on a la chance d'en avoir sur le secteur parce que... Cet intervenant français prend pas mal de place et est en train de monter pas mal d'unités de méthanisation.
C'est-à-dire que pour produire du bon gaz, il faut du très haut débit internet également sur le site.
Ouais, il faut du débit internet. Ouais, non, c'est clair. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font à distance. C'est le cas notamment de mon associé hein, qui travaille aussi en solution VPN. Hein. Alors tous ceux qui sont habitués à ces technologies-là, c'est quand même hyper intéressant. Voilà, maintenant ça exige, il reste quand même indissociable le fait d'avoir quelqu'un sur site pour constater, pour rien que pour prendre une clé, ça se fait pas encore à distance. Donc voilà, on peut pas tout faire, mais on est bien aidé. Et rien que les FaceTime et compagnie, c'est très utile en situation compliquée pour montrer à l'ingénieur qui se situe de l'autre côté ce qui se produit ou le bruit que l'on entend. C'est pas mal de paramètres qui sont utiles à distance.
Je vais poser la question qu'un gosse poserait. Ça fait quoi, monsieur, si j'appuie sur le bouton rouge arrêt ?
Ça va arrêter l'épurateur. Donc si on arrête l'épurateur, on ne peut plus injecter, on ne va plus être capable de nettoyer le gaz. Si on ne nettoie plus le gaz, on n'injecte plus. C'est forcément problématique. Ça veut dire que dans ces cas-là, le gaz va faire une boucle. Hein. Il n'est pas perdu. Il va faire une boucle, il va retourner dans le digesteur ou dans le post-digesteur, peu importe, mais il va retourner, c'est ce qu'on appelle les hauts gaz, et ils vont se recycler pour pouvoir être injectés tout à l'heure. C'est la même chose que lorsque l'on n'a pas la qualité adéquate. Si on n'a pas de défaut de pression, c'est-à-dire si on n'a pas excédé les 3 millibars, la torchère ne va pas se mettre en route. Dans une première étape, ce gaz-là, il va refaire un tour, quoi. Il refait un tour de manège pour arriver suffisamment propre à la sortie.
Alors, la deuxième porte.
Oui, alors ici, vous avez les membranes, vous voyez, les membranes qui servent à filtrer, mais tout ça, c'est tout un système de vannes, de pression, compression, dépression. Là, ici, on a ce qu'on appelle les skids pour analyser la qualité du gaz, des déshuileurs, des filtres à charbon. Toutes les technologies sont ici utilisées. Et là, on est forcément chez les pros du gaz, et ce qui est assez intéressant... Enfin, c'est le même sentiment que j'ai eu très rapidement avec les équipes GRDF notamment, mais on sent un hyper professionnalisme qui est assez agréable avec des process qui sont très intégrés. Enfin, c'est un détail, mais vous voyez, toutes les molettes, on a des numéros, on a des petits colliers pour dire le numéro de la vanne, pour savoir exactement de laquelle il s'agit, etc. Aussi pour être capable de gérer à distance, mais pour minimiser les erreurs, pour assurer la traçabilité des pièces si jamais il faut changer des pièces. On est vraiment sur... on voit qu'il y a un vrai professionnalisme chez les gaziers.
Il reste de la place pour d'autres filtres ?
C'est parce que le conteneur est prévu comme ça. Alors, mais c'est une question intéressante parce que je n'y ai pas répondu tout à l'heure avec la notion de gaz B. Nous, en fait, sur le nord de la France, on a un gaz de qualité moyenne. Parce que nos fournisseurs de gaz, alors je peux dire une bêtise, mais je pense que c'est la Norvège, ont une qualité, voilà. Donc on s'adapte aux standards du produit que l'on achète à l'étranger. En revanche, d'ici 2021 ou 2022, toute la France va passer au gaz H, c'est-à-dire à un gaz qui est beaucoup plus pur. Nous, on a besoin de 92% de CH4 dans ce que l'on injecte, alors qu'on doit être à 99%, si je ne dis pas de bêtises, ou 98%. Enfin, vous me pardonnerez si ce n'est plus exactement les chiffres, mais grosso modo, ce gaz H est plus pur et du coup il faut plus de membranes pour être capable de l'obtenir. Globalement aujourd'hui l'installation est déjà prête pour 2021. En fait on tourne au ralenti en termes d'épuration, on est capable de tourner l'accélérateur pour pouvoir assurer la qualité exigée par nos clients. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le gaz B ou le gaz H, en fait le consommateur, ça ne change pas le prix. Parce que le prix que l'on achète, c'est toujours des kilowattheures, donc c'est un pouvoir calorifique. Et donc, dans ces cas-là, que vous soyez de Paris ou vous soyez de Lille, ça reste le même prix au kilowatt.
C'est impressionnant, hein.
On va aller à côté pour vous aller voir le THP. Vous allez surtout le sentir.
Ah ouais. Ah ouais, ça sent fort, hein.
Ouais.
Ah ouais. Impressionnant. Waouh.
Et en fait, c'est tellement fort comme que le c'est pas injecté comme odorant dans le gaz, c'est simplement le gaz qui vient lécher, qui transite dans une bobonne où il y a ce produit. Donc c'est vraiment des quantités infinitésimales. Là, c'est la chaudière biogaz. Circulateur classique. On va passer à côté.
Ouais, je vous suis.
Bah, quand vous voulez.
Visite de l'unité de méthanisation agricole entre Gouy-sous-Bellonne et Corbehem avec Aymeric Bass.
Radio Scarpe Sensée.
La puce à l'oreille.
Ici, on arrive sur le process. Donc là, on a vu le process d'épuration, d'accord, qui est la partie Prodeval, donc les ingénieurs du gaz. Ici, on est sur la partie AES Dana, qui est notre fournisseur à Saint-Laurent-Blangy, de solutions pour l'ensemble du process, à la fois réseau, c'est-à-dire électrique, information. Une grosse partie de l'installation a été conçue par eux. Et donc là, on a le process sur la supervision, sur l'écran que vous voyez, enfin, pas pour les auditeurs, mais pour vous, où on voit schématiquement l'ensemble des cuves, ce qu'on appelle le biopush, qui est l'incorporateur, etc. etc.
Ouais, c'est la vision pour savoir où en est l'exploitation à voilà. Tel moment. Quoi.
Voilà, tout à l'heure on était à 34 tonnes, vous voyez la pesée, là on est arrivé à 33 tonnes. Donc voilà, on a fait ce qu'on appelle un batch, on a donné à manger aux bactéries depuis tout à l'heure. Voilà, et on a donc l'ensemble des informations, la température des cuves, le niveau des cuves, etc., etc. Tout ce dont on peut avoir besoin pour l'exploitation.
Je vous posais la question, l'investissement, au total, il est de combien ?
Ça a changé par rapport aux premières versions parce que, comme vous avez dû vous en rendre compte, mais des méthaniseurs, il y en a eu de plus en plus. Il y a eu beaucoup de constructions, donc les fournisseurs de matériel, etc., ont eu tendance à surenchérir leur prix. Globalement, nous, on est sur la dernière version, c'est-à-dire on reste sur les 4,5 millions, 4,7 millions pour l'ensemble du site. Ce qui est forcément non négligeable. Alors en injection, on est toujours plus cher qu'en cogénération, mais je vous l'explique tout à l'heure aussi, on valorise beaucoup mieux le gaz. Donc on peut espérer avoir des retours d'investissement un peu améliorés par rapport à la cogénération aujourd'hui.
Vous avez bénéficié d'aide justement pour cet investissement au titre de la transition écologique ou au titre de la politique agricole ?
Alors au titre de la politique agricole, non, mais au titre de la région et au titre de l'ADEME, hein, qui s'occupe de la maîtrise de l'énergie en France et notamment des mesures incitatives. Donc on a eu des aides qui représentent un pourcentage nécessaire pour assurer et donner l'envie d'eux, mais qui ont depuis de nombreuses années, forcément qui vont décrescendo et voilà.
Vous avez généré des emplois ?
Alors moi ici j'ai généré pour l'instant deux emplois mais pas forcément à temps plein. Mais grosso modo on sera à un peu plus d'un emploi à temps plein sur le site, si je compte pas le temps que j'y passe. Ouais.
C'est valorisant de se dire ce que je fais ça a du sens.
Ah complètement. Ah, complètement. J'ai pas que ce projet là qui a du sens, mais en tout cas oui, enfin en tout cas c'est mon moteur. Oui. C'est que ce que l'on fait ait du sens. Oui, tout à fait. C'est vraiment ma ligne directrice. Oui. C'est souvent incroyable de se dire, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant, quoi. Finalement, on a cette capacité de transformer pour l'essentiel des déchets, finalement, hein, que ce soit les déchets de pommes de terre, les pulpes, etc., ou des sous-produits de l'industrie agroalimentaire. On a moyen de les valoriser et avec tous ces sous-produits, de réussir à faire une énergie verte qui vient clairement dans le mix énergétique, qui vient clairement remplir sa fonction et qui vient se substituer à des énergies fossiles qui sont le pétrole, etc. Donc oui, ça a du sens. Oui, il y a une part, j'allais dire, d'un peu d'appréhension, au-delà de l'acceptabilité, hein, mais quand on monte ce type de projet, de fiabilité des fournisseurs avec lesquels on s'engage, etc. Je dois avouer qu'à ce jour, pour l'instant, je suis globalement rassuré sur les points qui pouvaient être sujets à m'inquiéter, parce qu'on l'a dit juste avant, c'est quand même des gros investissements. Le risque, il est porté par nous, hein, c'est rarement les banques qui le portent. Hein. Donc, ils sont des partenaires pour nous permettre d'avancer sur le projet, mais le risque final, il est quand même sur les porteurs de projet, qui sont des privés. Donc, content que cette mayonnaise, elle prenne, que ce soit une belle mayonnaise. Content aussi de se rendre compte que, en s'arrêtant et en discutant avec les Gouisiens, globalement, pour l'instant, c'est un pari gagné. Donc voilà, donc oui, c'est l'occasion de partir maintenant et d'avancer aussi sur d'autres projets dans cette même volonté de continuer à avoir des solutions à impact.
Vous avez aujourd'hui, ça y est, lancé la méthanisation agricole ici et vous êtes déjà sur d'autres projets.
Enfin, en fait, il y a un lien avec la méthanisation. C'est qu'il y a une culture que j'ai découvert en regardant la méthanisation qui se fait beaucoup en Allemagne, qui est une culture pérenne, avec zéro pesticide, qui pousse, donc pérenne, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la réensemencer tous les ans, on n'a pas besoin non plus de relabourer, donc on arrive à stocker globalement bien le carbone, on limite les phénomènes d'érosion, on augmente le pouvoir racinaire et donc la résistance à la sécheresse. Donc j'ai trouvé que cette plante, elle avait des qualités qui étaient exceptionnelles dans ce parcours que j'ai fait avec la méthanisation. Et au même moment, on a parlé des zones de non-traitement en France, c'est-à-dire toutes ces zones que l'on veut conserver, préserver sans pesticides autour des maisons, autour des habitations, autour des villages, etc. Et du coup, l'idée que je me pose, c'est de dire, si jamais on met cette culture-là, qui peut être bénéfique pour la méthanisation ou pour l'élevage, un peu comme un maïs pourrait l'être, et qui peut être donc valorisé, au moins ça permet de garder ces zones propres et de les conserver utiles, parce qu'il faut savoir quand même qu'on perd de la surface agricole de façon conséquente tous les ans en France, et que c'est un vrai phénomène problématique.
Alors, la question des 5 mètres, est-ce suffisant ou pas, c'est une autre question, mais c'est au moins utiliser cet espace. Ça pourrait être également mis en œuvre dans des zones où on doit justement également limiter tout risque d'érosion des sols vers la route.
Alors, donc vous avez parfaitement raison, mais aussi et surtout toutes les zones où on doit diminuer au maximum les quantités de pesticides. Et c'est le cas aujourd'hui, nous, ici sur Ferrin, où on est en reconquête de l'eau liée à l'ensemble des captages qui sont présents. Donc ça permet d'y participer, de mettre soit des surfaces, des parcelles complètes avec ce type de culture, soit de valoriser ces zones de non-traitement pour faire une barrière végétale entre la culture et les habitants. Et en plus, on a un vrai avantage, c'est que cette culture, elle est jolie. Grosso modo, ça ressemble à un tournesol. C'est une belle fleur jaune qui pousse progressivement au fur et à mesure de l'année pour atteindre des rendements de biomasse qui sont assez intéressants. Donc voilà, c'est un peu comme la méthanisation. Quand je me dis pourquoi des choses comme ça, ça ne se met pas en place. Si moi j'ai la capacité aujourd'hui avec mes connaissances, mes compétences, mon réseau de mettre en place ce type de choses, il faut y aller. Et j'ai eu la magnifique rencontre au moment où j'avais cette idée avec Géonor, qui est une entreprise d'expertise en géologie sur Arras. J'ai eu cette magnifique rencontre avec Laurence Denis, qui elle recherchait des projets agroécologique fort et pour les communautés de communes, pour que l'on puisse faire avancer. J'ai dit, écoute, moi j'ai une idée, si tu veux, on y va ensemble. Elle m'a dit oui, banco, et donc on a avancé ce projet depuis un an, et donc on a déjà commencé à implanter la sylphie ici sur les communes. L'idée, c'est clairement de voir si tout ce qui nous est vendu par les Allemands ou par les semenciers correspond réellement à la réalité, et est-ce qu'aujourd'hui, en gros, c'est être en mode expérimental, d'être les précurseurs, de tester, et si ça fonctionne tel qu'on le pressent, de pouvoir déployer sur les Hauts-de-France en premier lieu, mais pourquoi pas beaucoup plus loin sur la France, pour avoir à nouveau une vraie solution à impact.
Il est quoi aujourd'hui, Aymeric Baès ? Entrepreneur, technicien, ingénieur, biologiste, naturaliste, un peu tout ça ?
Bah, c'est charmant de vous entendre dire ça, c'est flatteur, et je sais pas, ce qui est sûr, c'est que je me définis encore, je pense, comme un entrepreneur engagé. J'ai la volonté de faire avancer les choses, de faire avancer les générations qui me suivent, hein, parce que vous savez, enfin, vous avez déjà vu peut-être mes enfants. Mais donc voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses bien qui se font en agriculture. La communication, elle n'a pas été suffisante, je m'en suis rendu compte avec mon projet notamment. Mais après, notre métier, c'est pas de faire que de la com. Notre métier, c'est surtout d'avoir des solutions à impact, parce qu'on a parlé du réchauffement climatique. Les agriculteurs sont les premiers concernés par les effets du réchauffement climatique. Voilà, et les EDNT, c'est à nouveau la même chose, c'est-à-dire qu'on est aussi fortement concernés. Autant essayer de transformer tous ces problèmes, tous ces inconvénients, essayer de les transformer en opportunités pour en faire quelque chose de positif pour nos territoires. Et puis une fois qu'on sera compris et que les gens comprendront la finalité, je suis assez serein sur ça. Ouais. Je reste un entrepreneur engagé. Ouais.
Merci beaucoup.
De rien, merci à vous d'avoir consacré un peu de temps pour cette visite.
Pluvieuse.
Pluvieuse, très pluvieuse, puisque là on est sur une très très grosse averse. Ouais.
Visite sur l'unité de méthanisation agricole entre Gouy-sous-Bellone et Corbehem. Reportage de Hervé Dujardin. Production Radio Scarpe Sensée.